Ok, payé.
On se met en étale sur le ventre et tu laisses bien remonter les jambes. Vas-y. Prends ton air, on s'allonge. Ok, très bien. Pareil sur le dos.
Voir tomber son enfant accidentellement dans une piscine, c'est la hantise de tout parent à l'approche de l'été. À Talence, Nelly, la maman de Payot, 3 ans et demi, a décidé de prendre les choses en main.
On a l'habitude d'aller chez des amis qui ont des piscines et on était tout le temps debout à lui courir après, à stresser qu'il tombe dans l'eau. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution.
On va refaire sauter dans l'eau.
Et la solution, elle l'a trouvée avec Swimstar, spécialisée dans les cours de natation, qui propose dès 3 ans des cours d'auto-rescue. Une antenne récemment ouverte à Talence au sein de la salle de sport Elevate. Vincent Desbeaux est maître nageur et directeur de Swimstar Talence.
Le plus important, c'est que l'enfant sache se mettre en sécurité dans l'eau. Donc ça s'apprend dès le plus jeune âge.
Des cours en petits groupes de maximum 4 enfants d'une durée de 30 minutes avec plusieurs exercices.
On va travailler sans lunettes. Ça, c'est vachement important. Beaucoup d'enfants apprennent avec des lunettes. Si un jour ils doivent tomber dans l'eau sans lunettes, ils sont perdus. Ensuite, on va leur apprendre l'équilibre. Donc sur le dos, l'étoile de mer, pour qu'ils puissent respirer. Et ensuite, le déplacement. Donc, suite à cet équilibre, savoir se déplacer pour entrer au mur et pour sortir de l'eau.
Tu peux l'attraper avec tes pieds, Payot, si tu veux. C'est trop dur avec les mains. Mais il faut que tu descendes sous l'eau, quand même.
Quand le maître nageur estime que l'enfant a acquis toutes les compétences d'auto-rescue, un exercice final est proposé en sautant dans l'eau tout habillé, comme dans les conditions réelles d'un accident. Nelly espère aussi qu'en cas d'accident, les cours d'auto-rescue puissent lui faire gagner du temps.
On sait que s'il arrive un accident, il saura, j'espère, comment réagir. Et peut-être ça nous laissera surtout un peu plus de temps pour pouvoir le sortir de la piscine s'il tombe dans l'eau par inadvertance.
Selon les chiffres de l'été dernier donnés par Santé publique France, les moins de 6 ans représentent un petit peu plus d'un quart des noyades, un chiffre stable depuis 2023.
Bienvenue au cœur de la nuit. On passe d'un sujet intéressant à un autre. C'est ça, la nuit sur 8FM.
8FM, Zoom Info.
Un problème dentaire, une mauvaise vue, un trouble du langage ou psychomoteur, des problèmes d'audition. Selon la protection maternelle et infantile de Gironde, 40% des enfants âgés entre 3 et 4 ans présentent au moins l'un de ces troubles. Un chiffre tout droit sorti des bilans de santé et de dépistage PMI réalisés sur la période scolaire 2023-2024. Pas moins de 13 000 enfants ont bénéficié de ce dépistage dans pas moins de 570 écoles de Gironde. Et certains troubles sont plus dépistés que d'autres, comme nous l'explique France Ahano, médecin directrice PMI de Gironde.
Alors les troubles les plus fréquents, en un, c'est vraiment les troubles dentaires, puisqu'on a presque un enfant sur quatre qui a des caries le plus souvent. Et ensuite, donc, c'est les troubles du développement du langage et les troubles visuels.
Des troubles qui peuvent s'expliquer par la présence de plus en plus importante des écrans dès le plus jeune âge, une alimentation trop sucrée. Suite à ce bilan, dans un tiers des situations, la PMI propose un suivi avec une puéricultrice, puis un médecin pour accompagner au mieux les familles.
Quand il y a un trouble particulier ou que, par exemple, l'enseignant nous dit « Cette famille-là, ils ne vont pas voir le médecin, ils n'ont pas de médecin, ils vont pas donner suite, par exemple, au dépistage que vous avez effectué. » Donc, on va les recevoir et on va leur expliquer ce qu'ils doivent faire, en fait, pour accompagner au mieux leur enfant. On leur expliquera, quelquefois, mettra un petit peu de vulgarisation, l'explication du trouble qu'a leur enfant pour vraiment les rassurer et s'assurer que le suivi sera fait par la suite.
Le département de la Gironde veut appuyer sur l'importance de la prévention et des missions de la PMI dans la vie des familles girondines dans un contexte médical particulier.
La France se classe piteusement à la 23e place en Europe sur la mortalité infantile.
Jacques Renaud, médecin et élu départemental en charge de l'accès aux soins et à la santé du département de Gironde.
Les pathologies, je dirais réémergentes, la rougeole, la tuberculose, tout ça, ça nous incite, nous, professionnels de la PMI, à aller au-devant de plus en plus vers les enfants de 3-4 ans. Et c'est ça, en fait, qui permettra sans doute de faire reculer et les facteurs de mortalité et les problématiques de vaccination.
Et pour retrouver la PMI proche de chez vous, eh bien rendez-vous sur le site gironde.fr.
Salut à vous et bienvenue sur 8FM, où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de 8FM. Bonne écoute.
8FM, Zoom Info.
Nous avons un départ de feu qui a été signalé par un appel fictif sur un bord de route. Le feu s'est propagé avec le vent qui pousse vers le nord-est, qui poursuit son action sur la végétation et qui va menacer des habitations.
Alors rassurez-vous, tout ça n'est que fiction. À l'approche de l'été, Martignat-sur-Jalles a été le théâtre ces derniers jours d'un exercice grandeur nature de feux de forêt et gestion de crise, avec pour Bordeaux Métropole le déploiement pour la première fois de sa réserve citoyenne métropolitaine, créée en 2023. 2023, après les feux de l'été 2022, elle compte 180 réservistes prêts à intervenir auprès de la population en cas d'incendie, mais aussi inondation, épisode de canicule ou encore catastrophe technologique.
Leur rôle, c'est de prêter assistance aux forces de secours et de sécurité en cas de crise.
Alexandre Rubio, maire de Bassens et élu en charge des risques à Bordeaux Métropole.
Ils ont aussi la vocation de travailler à la prévention des risques, pour ne pas parler du risque uniquement quand on est en gestion de crise.
Formés auprès des pompiers et de la protection civile, les réservistes ont dû répondre à cet appel ou SMS.
Bonjour, un important feu de forêt est actuellement en cours sur la commune de Martignas-sur-Jalles. La commune fait procéder à l'évacuation d'un lotissement.
Et ils sont 8 à avoir répondu présent. Après avoir mis en place le centre d'urgence au sein de la salle, il va falloir désormais gérer de nombreuses situations.
J'ai jamais été évacuée de ma vie, je sais même pas combien de temps je vais rester ici.
Soyez gentils, appelez le maire maintenant.
On a été formés à l'écoute et à l'accompagnement des personnes vulnérables.
Marie-Pierre, réserviste à la réserve citoyenne métropolitaine.
Donc là, ce qu'on a appris, c'est qu'on est censé se synchroniser à la personne, dire qu'on a bien compris la situation, mais ramener au moment, dire que là, ce qui est urgent, c'est d'accueillir toutes les personnes sinistrées.
Pour Valentin, réserviste, c'est aussi une façon de se découvrir soi-même.
Ses limites, ses capacités, des choses dont on se croyait capable et finalement, c'est pas le cas le jour J, inversement.
Et de nouveaux exercices grandeur nature seront mis en œuvre dans les prochaines semaines sur d'autres thématiques de catastrophes naturelles ou industrielles. Bordeaux Métropole compte bien lancer de nouvelles candidatures pour faire grossir les rangs de la réserve citoyenne métropolitaine.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, how do you breathe and take my breath away? At your altar I will pray, you're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
8FM, Zoom Info.
Pour ceux qui avaient le bicarbonate de soude ou le savon, on est plutôt resté dans du bleu.
Vous avez toujours trouvé les cours d'SVT ou de physique chimie barbants? Vous pourriez changer d'avis en allant faire un tour dans un tout nouveau musée immersif dédié à la science. Son nom, Science Expérience.
Mais quel est cet endroit?
Grégory Well, cofondateur de Science Expérience.
C'est un nouveau lieu immersif de science. Donc on vient de s'installer à Bordeaux, au cœur de Bordeaux, dans la promenade Sainte-Catherine, qui est dédiée à tous les publics, de 5 jusqu'à 120 ans, et dans lequel on va retrouver différents univers scientifiques. On va commencer par l'espace. On va enchaîner ensuite avec les abysses. On enchaîne ensuite avec le cerveau. Et à partir des neurones des visiteurs, on va pouvoir capter l'impulsion électrique du cerveau pour créer une œuvre d'art. Ensuite, on va pouvoir faire dresser les cheveux en l'air avec un générateur Van de Graaff et 400 000 volts d'électricité statique. Ensuite, on va faire des expériences de physique et de chimie.
Alors, Bordeaux est la troisième ville à accueillir un musée immersif autour de la science, après Paris et Lyon. Et pour l'occasion, la capitale girondine se part de deux salles inédites. La première sur les aurores boréales.
Donc, on n'a pas besoin d'aller en Laponie. Là, on va pouvoir s'allonger sur des poufs géants, regarder le plafond et observer des aurores boréales. Et dans la salle d'à côté, comprendre physiquement, enfin scientifiquement parlant, comment ce phénomène-là existe, hein, la rencontre entre les vents solaires et la magnétosphère.
Et la seconde, bien sûr, sur le climat.
Évidemment que ça fait partie des sujets aujourd'hui majeurs pour tout le monde. Et comment est-ce que, d'un point de vue scientifique et très neutre, eh ben, on présente les sujets concernant le climat, à la fois les causes, les conséquences et les logiques d'action.
Mais pour toutes les salles, le but reste le même, rendre la science ludique.
On est vraiment dans un endroit où on s'amuse et où on apprend. C'est-à-dire qu'on soit féru de science, qu'on soit simplement curieux de science, ou alors si on a été complètement nul en mathématiques, en SVT, en physique, en chimie, parce qu'on avait deux, et ben là on va retrouver le laboratoire qu'on aurait adoré avoir en étant étudiant, et on va pouvoir surtout se poser des questions.
Science Expérience ouvre ses portes demain, mercredi 2 avril, promenade Sainte-Catherine. Toutes les infos sont à retrouver sur le site science-experience.com.
Vous êtes sur 8FM avec moi. Une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
8FM, Zoom Info.
En tant qu'aidant, je peux être aidé aussi, sans jeu de mots.
Depuis plusieurs années, Francis, âgé de 80 ans, épaule sa femme qui souffre de déclin cognitif.
Je ne consens pas de ne pas tout faire pour l'aider.
Si jusqu'à maintenant son état restait stable, il s'est un petit peu dégradé ces derniers mois. Le médecin conseille donc à Francis de prendre contact avec un EHPAD pour un accueil de jour. Commence alors un marathon administratif.
Et j'habite à Codérance, je suis allé au Grand Bon Pasteur en direct. On me dit, monsieur, une place en accueil de jour, ça se passe pas comme ça, c'est rendez-vous. Il faut que vous remplissiez un dossier via Trajectoire Santé
sur Internet.
Alors pour se faire aider, il est conseillé à Francis de se tourner vers le comptoir des aidants, un nouveau service installé depuis fin 2024 à la cité municipale de Bordeaux, proposé par la mairie en partenariat avec le département de la Gironde. L'idée est de centraliser dans un même endroit l'offre d'aide souvent méconnue qui peut être proposée aux aidants pour leur faciliter la vie.
D'avoir une visibilité, des informations sur l'offre existante, le réseau qui existe et qui se mobilise, réseau souvent associatif mais aussi institutionnel.
Olivier Escott, adjoint à la mairie de Bordeaux en charge du handicap, la lutte contre toutes les discriminations et l'accessibilité.
Qui peut venir les accompagner dans différentes démarches et si besoin, là c'est par contre c'est sur rendez-vous, il y a possibilité d'être accueilli par une psychologue.
Une aide administrative mais aussi des solutions pour les aidants, pour leur permettre de se reposer. Depuis son ouverture, une centaine de personnes a passé la porte du comptoir des aidants. Julia Dulor est coordinatrice aide aux aidants.
Je suis aidant, qu'est-ce qui existe dans mon statut? Ça peut être aussi des personnes qui sont sur de l'épuisement. Donc là, c'est la mise en place d'aide, d'ouvrir les droits et de travailler sur des solutions de répit.
5 agents d'accueil sont présents du lundi au vendredi à la cité municipale de Bordeaux, de 9h à 17h et de 10h à 17h le jeudi. Un numéro est aussi disponible pour prendre rendez-vous au comptoir des aidants, le 0800 625 885.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
8FM, Zoom Info.
Khéops, Toutankhamon, Ramsès II, les pharaons égyptiens ont élu domicile au Bassin des Lumières de Bordeaux depuis le 21 février dernier. Une exposition XXL immersive qui marque un petit tournant dans l'histoire des bassins pour le directeur du lieu, Humbert Vuatrin.
Un voyage dans le temps et vers l'Orient. Elle s'inscrit parfaitement dans la continuité des expositions sur les grands maîtres de l'histoire de l'art qu'on a pu diffuser les années précédentes, dans le sens où c'est l'art à travers l'Égypte et les 3000 ans d'histoire.
3000 ans d'histoire évoquée avec une trame plutôt originale.
Le cycle qui a été représenté n'est pas chronologique, mais c'est plutôt le cycle de la vie d'un point de vue de la mythologie égyptienne. Donc on va partir un petit peu de la genèse du monde avec la création du monde par les dieux jusqu'à l'au-delà, en passant évidemment par le thème phare des pharaons. Les pharaons qui finalement sont le trait d'union entre le monde terrestre et le monde des dieux.
Et pour ça, Culture Espace, en charge de concevoir l'Égypte des pharaons, a fait tout un travail en amont pour proposer une exposition la plus fidèle possible à l'histoire. Intervention d'égyptologues, voyage en Égypte et plus surprenant encore, collaboration avec le producteur de jeux vidéo Ubisoft, Virginie Martin, directrice artistique de l'expo.
On commence par identifier les monuments emblématiques, en tout cas que le visiteur a envie de voir quand on pense à l'Égypte antique. Donc il va pouvoir se balader dans les temples d'Abou Simbel. Il y a une progression physique grâce aux simulations 3D du jeu Assassin's Creed d'Ubisoft qui nous permet vraiment d'être immergé dans un temple. On l'a également sur la construction des pyramides qui est physiquement ici racontée bloc par bloc.
Et on s'est posé cette question, pourquoi cette période de l'histoire continue à nous fasciner? C'est un spécialiste, Jean-Guillaume Oliette Pelletier, égyptologue, qui nous répond.
L'Égypte pharaonique a toujours fasciné, hein. C'est le côté mystérieux, le côté ancestral. On a l'impression que c'est le berceau de l'histoire, le berceau de la magie aussi.
Et pour rester dans le thème de l'Orient, une deuxième exposition immersive sur les peintres orientalistes est proposée à la suite de l'Égypte des pharaons. Ces deux expositions seront à voir jusqu'à la fin de l'année.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM.
Encore un soir, encore une heure. Toujours ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler. Dernière fleur, l'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures passées à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs. Je veux m'envoler. Ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Avec toi et moi, je veux m'envoler.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Les défis de la parentalité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on va parler parentalité, ce lien unissant un adulte et un enfant dans le but d'assurer l'éducation, le développement et le bien-être de ce dernier. L'épisode 1 est consacré à la question des enfants et des écrans. Pour en parler, nous avons interviewé Serge Tisseron, psychiatre et créateur des balises 36912. Bonne écoute.
Alors donc du coup, cette question, pourquoi pas d'écran avant 3 ans ?
Alors, avant 3 ans, l'enfant est en pleine construction de sa personnalité et de ses compétences motrices, ses compétences relationnelles, ses capacités d'attention et de concentration. Et donc, il est important que ces compétences puissent se construire dans la relation qu'il a avec les objets qui l'entourent, avec les humains qui l'entourent. Lorsqu'un enfant se trouve devant un écran, il ne manipule pas des objets, il ne transforme pas son environnement, il n'interagit pas avec un humain qui a un visage, des mimiques, des gestes, des attitudes, des échanges avec lui. Et donc du coup, la construction de ses compétences s'en trouve gênée et retardée, et c'est comme ça qu'on peut voir chez des enfants qui passent beaucoup de temps dans les écrans, un retard global du développement. Alors après, il faut relativiser l'importance des écrans, et vous comprenez bien que ce qui est important, c'est pas que l'enfant soit tenu à l'écart des écrans, c'est qu'il soit engagé dans des interactions, qu'il ait des jouets adaptés à son âge et qu'il ait surtout des partenaires, hein, autres enfants, adolescents ou adultes, avec lesquels construire sa vie relationnelle.
Quand vous dites il est seul devant l'écran, il n'y a pas d'interaction. Justement, moi je me posais la question, si on regarde un film, un petit film adapté à l'enfant, je pense au film Disney, au film d'animation, mais avec son enfant, on est à côté de lui, on lui pose des questions, on essaye d'interagir avec lui pendant le film, pendant qu'il regarde. Est-ce que ça c'est quand même nocif avant 3 ans ou c'est déjà mieux ?
Ça n'est pas vraiment utile. Vous savez, ce qui est important pour un jeune enfant, c'est d'apprendre à déchiffrer les mimiques. Et apprendre à déchiffrer les mimiques, on ne le fait pas en regardant un film. Alors évidemment, il y a des dessins animés avec des personnages qui ont des mimiques. Mais souvent, ces mimiques sont très caricaturales. Elles restent très peu de temps sur l'écran, elles défilent. Et finalement, l'enfant ne leur donne pas du sens. Quand un adulte interagit avec un jeune enfant, ou même avec un autre adulte, les mimiques, en général, restent un moment sur le visage et elles font sens dans la relation. Donc, après 3 ans, un parent peut regarder des films avec un enfant, mais alors comme vous dites justement, l'important ça va être qu'il commente l'image pour convaincre l'enfant que l'important, quand on regarde les écrans, c'est ce qu'on va raconter sur les écrans. Les images, c'est ce dont on parle, c'est pas seulement ce qu'on regarde. Mais avant 3 ans, ce qui est vraiment fondamental, c'est le corps à corps, c'est la relation qui implique encore une fois les gestes, les attitudes, les mimiques, les intonations, et tout ça devant un écran, on peut pas l'échanger avec un enfant.
Alors justement, on parle de cette balise 3 ans. Donc on va parler des fameuses balises 3, 6, 9, 12. Déjà, pourquoi 3 ans ? Qu'est-ce qui se passe à 3 ans ? Il y a un changement miraculeux dans l'enfant ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, n'oublions pas que 3 ans, c'était l'âge traditionnel où l'enfant entre en maternelle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à ce moment-là, un certain nombre de ses compétences de base ont été posées et il devient capable d'interagir avec des pairs, avec donc des camarades de son âge. Donc, on a beaucoup discuté à l'époque, hein, avec des collègues, 2 ans, 3 ans. Bon, on s'est dit que finalement, c'était pas plus mal de convaincre les parents de laisser leur enfant un peu plus longtemps à l'écart des écrans, parce que ce qu'on a craint, c'est qu'à partir du moment où on dirait ben ça y est, après 2 ans par exemple vous pouvez les mettre, ben il y a une rupture trop massive, donc on s'est dit on va attendre un peu, voilà. Et puis encore une fois 3 ans, les parents voient bien qu'il y a un changement, et c'est encore une fois pas pour rien que l'enfant rentre traditionnellement à la maternelle à 3 ans.
C'est qu'il est mûr, quoi. Il a eu le temps d'avoir toutes les bases dont vous parliez avant, quoi.
Voilà, il a construit ses bases, et après, il faut évidemment les perfectionner, mais elles se perfectionnent toute la vie. La capacité motrice, par exemple, l'attention, la concentration, ça se perfectionne ou ça s'endommage toute la vie, selon les activités qu'on va avoir. Mais à partir de 3 ans, il est capable, l'enfant est capable d'investir ses compétences dans la vie sociale. Élargie avec plusieurs camarades avant 3 ans, c'est quand même beaucoup dans la relation avec un adulte privilégié.
Alors, donc, les fameux 3, 6, 9, 12. Moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on donne à regarder aux enfants? J'imagine que si ces balises, vous les avez faites, c'est qu'il y a une correspondance de ce qu'on est capable de regarder aussi par rapport à son âge.
Oui, exactement. Alors, pour faire rappeler un petit point d'histoire, donc, en 2007, 2006-2007, il y a deux chaînes de télévision qui ont prétendu s'implanter en France pour émettre des programmes destinés spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans. Et en plus, ces chaînes, dans leur publicité auprès des parents, insistaient sur le fait que les parents allaient devoir laisser l'écran de télévision allumé toute la nuit, donc l'enfant allait s'endormir avec la télévision, et s'il se réveillait pendant la nuit, il allait se rendormir avec la télévision sans qu'il hurle de solitude ou d'inquiétude, et sans que les parents soient obligés de se lever. Donc, j'ai trouvé ça quand même tellement terrible qu'à l'époque, j'ai mobilisé des collègues, j'ai lancé une pétition, c'est là qu'on a dit pas de télé avant 3 ans. Ces 3 ans, vous voyez, c'était aussi ces chaînes qui prétendaient émettre spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans, y compris les enfants de 15 jours, 1 mois, 2 mois. Donc, pas de télé avant 3 ans. À l'époque, la télé était le seul écran. Donc, on disait tantôt pas de télé avant 3 ans et tantôt pas d'écran avant 3 ans, parce que ça sonnait mieux à l'oreille, pas d'écran avant 3 ans. Mais le seul écran, c'était la télé. Et puis, à ce moment-là, des parents m'ont dit, on a bien compris, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, c'est vrai. Les enfants qui ont aujourd'hui 9 ans, 12 ans, peut-être qu'ils ont été beaucoup dans les écrans petits. Peut-être il faut aussi voir comment rattraper un certain nombre de choses qui se sont mal passées avec eux. Et donc, j'ai imaginé ces repères 3, 6, 9, 12 en les calant tout simplement sur les compétences de l'enfant. Et rien ne témoigne mieux des compétences de l'enfant que l'Organisation d'éducation nationale. Donc, 6 ans, c'est l'entrée en élémentaire. 9 ans, c'est tous les enseignants, c'est une rupture quand même dans les compétences de l'enfant. Et 12 ans, c'est l'âge où l'enfant est déjà entré en collège, mais où il a trouvé ses repères, parce que j'avais bien remarqué qu'en 6e, beaucoup d'enfants se sentent encore un petit peu en élémentaire. Et d'ailleurs, depuis, vous savez, l'éducation nationale a adopté finalement ses repères, puisque ça correspond maintenant à cycle 1, cycle 2, cycle 3, la 6e étant intégrée dans le cycle 3 et le cycle 4 ne démarrant qu'à partir de la 5e.
Et alors, du coup, ces balises correspondent vraiment à ce que l'enfant est capable d'assimiler à cet âge-là, que ce soit en termes de violence ou en termes de joie, c'est ça?
Alors, ça correspond d'abord à ce que l'enfant est capable d'affronter dans la vie, sur les écrans, mais aussi et surtout, je dirais, à ce que les parents, à ce à quoi les parents doivent être attentifs. Voilà. Donc, entre 3 ans et 6 ans, c'est important que les parents soient attentifs à éduquer l'enfant à la capacité qu'on appelle d'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre. On sait aujourd'hui que la capacité de régulation, c'est une compétence psychosociale extrêmement importante, être capable d'inhiber ses impulsions, d'attendre son tour, par exemple, voilà, que ça soit au moment du repas ou que ça soit quand les enfants lèvent le doigt dans la classe. Donc, être capable d'attendre. Et donc, c'est pour ça qu'entre 3 et 6 ans, j'ai conseillé aux parents de fixer une tranche d'écran. Alors, ils peuvent dire, ça va être une demi-heure par jour, une heure le mercredi, une heure le samedi, peu importe. Voilà, je ne veux pas me substituer aux parents, ça dépend tellement de facteurs. Mais en revanche, que les parents fixent une tranche horaire et fixent un moment où privilégié pour cette tranche horaire. Par exemple, dire à l'enfant, tu as droit à une demi-heure d'écran, c'est entre 18h et 18h30. Et montrer la pendule à l'enfant, lui dire, tu vois, c'est quand les aiguilles se trouvent là. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à attendre. Et quand l'enfant dit télé, on lui dit, non, regarde, ça va venir, mais tu vois, c'est pas encore l'heure. Voilà. Et donc, du coup, quand l'enfant à 6 ans, il faut arrêter ça, parce que sinon, vous infantilisez votre enfant. Donc, à partir de 6 ans, c'est beaucoup plus un petit carnet de temps d'écran, lui demander de noter son temps d'écran, en parler avec lui. Voilà. Et donc, à partir de 9 ans, c'est d'autres préoccupations encore. Ça va être la curiosité d'Internet, ça va être le droit à l'intimité, le droit à l'image. Donc, vous voyez, à chaque tranche d'âge correspondent des interrogations de l'enfant, des curiosités de l'enfant, et donc des préoccupations différentes de la part des parents, qui veulent accompagner très correctement, le mieux possible, leur enfant dans la vie. Et donc, ces repères 3, 6, 9, 12, on les connaît souvent sous la forme des conseils spécifiques à chaque tranche d'âge, mais en fait, il faut comprendre que tous ces conseils sont liés à trois principes de base, hein, qui ont d'ailleurs depuis 2016 été reconnus par l'Académie américaine de pédiatrie et l'Académie canadienne de pédiatrie, c'est-à-dire accompagner l'enfant, hein, on se préoccupe pas seulement du temps qu'il passe devant l'écran, mais aussi de l'accompagnement qu'on lui procure. Alors un accompagnement à partir de 3 ans, en regardant de temps en temps des choses avec lui, mais bon, en même temps, on peut avoir d'autres choses à faire, mais donc accompagnement en parlant avec l'enfant de ce qu'il a vu. Parce que vous savez, les enfants, ils sont pas très partant pour parler de ce qui se passe à l'école ou avec les copains. En revanche, les écrans, qui en plus ils voient à la maison, les mobilisent tellement sur le plan émotionnel, ça les bouleverse tellement qu'ils sont très contents d'en parler, que ce soit des jeux vidéo, des dessins animés, etc. Donc parler avec l'enfant de ce qu'il voit avec les écrans, plus tard de ce qu'il fait quand il commence à jouer aux jeux vidéo, ça c'est l'accompagnement. Alors l'alternance, ben, ça veut dire que il peut y avoir un peu de jeux vidéo, un peu d'écran partagé, un peu d'écran solitaire. Voilà, et puis quand l'enfant grandit, à partir de 6 ans, peut-être un appareil photographique numérique, ça c'est formidable, hein. Ça lui apprend, il passe du statut d'objet des photographies familiales au statut de producteur d'images, voilà. Donc alternance, accompagnement, et puis apprentissage d'autorégulation, c'est vraiment les trois piliers, hein, des balises 3, 6, 9, 12. D'où dérivent 4 conseils, hein, qui commencent à être bien connus, heureusement. C'est le fait de limiter les temps d'écran, bien sûr, mais aussi de veiller à la qualité des écrans, choisir les programmes avec les enfants, discuter avec eux, accompagner et encourager les activités de création, l'appareil photographique numérique à partir de 6 ans, certains jeux vidéo comme Minecraft, voilà. Et puis veiller à parler avec l'enfant constamment de ce qu'il voit et fait avec les écrans. Donc 3 principes de base, 4 conseils, et encore une fois, j'ai lancé ça en 2008. Dans les années 2000, l'Académie américaine de pédiatrie, l'Académie canadienne de pédiatrie, était uniquement sur des préconisations restrictives en termes de temps d'écran, et j'ai été heureux de voir qu'en 2016, finalement, ils avaient adopté cette façon de voir, quoi. Plutôt la qualité que seulement viser la quantité et surtout accompagner l'enfant.
Alors justement, moi ça m'intéresse beaucoup cette question de qualité. Vous parlez de choisir bien son écran. Je sais que je vois des fois des parents, bah, je comprends au restaurant, on veut faire patienter l'enfant, ils vont mettre le téléphone. Est-ce qu'il y a une différence pour l'enfant entre en effet une télévision, un vidéoprojecteur, une salle de cinéma ou du téléphone et même les jeux vidéo? Alors Minecraft, en effet, ça fait appel à de la réflexion, mais il y a des fois des jeux vidéo comme Mario Kart, tout ça. Est-ce que tout ça se vaut? Est-ce qu'il faut faire attention?
Alors, il faut toujours privilégier les écrans partagés aux écrans solitaires, toujours privilégier les écrans interactifs aux écrans non interactifs. Ça veut dire que plutôt que de laisser un enfant tout seul devant un programme de dessin animé pendant qu'on regarde un film pour adultes, ben de temps en temps, quand même, regarder un film tout public. En plus, il en manque pas. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont redécouvert les vieux de Funès, les vieux Fernandel, les vieux Bourville, voilà. Donc, on peut avoir plaisir en tant qu'adulte à voir ou revoir de vieux films ou quelques westerns parfois pour les plus petits, voilà, quelques westerns, pas pour les plus petits, pour les plus grands, voilà. Donc en tout cas, toujours préférer les écrans partagés aux écrans solitaires, et toujours préférer les écrans interactifs, parce que les émotions sont partagées en temps réel. Si vous jouez à Mario Kart avec votre enfant, ben vous commentez au fur et à mesure, il commente au fur et à mesure. Alors que si vous regardez un bond de Funès, bon, vous riez ensemble au même moment, vous faites quelques remarques, mais finalement il y a peu de commentaires. Voilà. Donc ça c'est vraiment les deux conseils importants. Et dès que l'enfant a 3 ans, on peut en effet trouver des activités qui correspondent à ces deux principes.
Alors je sais qu'un peu plus tard, je pense plutôt vers les 12 ans, parce que je pense que vraiment avant, vous allez me dire, mais ça me paraît jeune, c'est ce qu'on appelle l'accès aux réseaux sociaux. C'est un truc qui inquiète pas mal de parents, de devoir leur laisser un Facebook parce que le copain il l'a aussi. Est-ce que vous avez des conseils sur ça, sur la gestion des réseaux sociaux pour les parents vis-à-vis de leurs enfants?
Oui, alors les réseaux sociaux évoluent extrêmement vite. N'oubliez pas quand même qu'il y a une dizaine d'années, on ne parlait que de Facebook, et c'était un réseau de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont sur Facebook, et beaucoup de jeunes ont déserté, surtout les dernières générations, ont déserté Facebook. Beaucoup sont sur TikTok, et TikTok n'a rien à voir avec Facebook. Donc, TikTok est un réseau social, d'ailleurs, dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Twitter, qui était un réseau social régulé à un moment, est devenu un réseau social dérégulé. Donc tout évolue extrêmement vite, c'est pour ça que je parle volontiers de jungle. Internet, c'est une jungle, on croit connaître un petit morceau et on s'aperçoit qu'en fait, autour, il y a des tas de choses qu'on n'avait pas vues et qui restent difficilement compréhensibles. Les modèles économiques des réseaux sociaux sont opaques, ils ne s'en vendent pas de leur modèle économique, de piller nos données, de les exploiter. La régulation que les réseaux sociaux prétendent faire, en fait, existe très peu, c'est un rideau de fumée, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de rester informé auprès des gens qui peuvent avoir, dans un petit domaine, une meilleure connaissance des choses que nous. L'exemple de la jungle est également intéressant parce que il n'y a pas de carte dans la jungle. Et donc, qu'est-ce que vous faites si vous voulez aller dans la jungle? Vous cherchez un autochtone. Quand les conquistadors allaient en Amazonie, ils cherchaient un Indien, voilà, qui allait les guider, qui connaissait les dangers, etc. C'est un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, ça veut dire concrètement quoi? Ben, ça veut dire d'abord que nos enfants, souvent, ils ont moins de compétences sur Internet que ce qu'on croit. Je veux dire, beaucoup de parents voient leur enfant constamment avec les doigts sur leur smartphone et pensent que leur enfant a une compétence. Non, les enfants ont souvent une compétence pointue sur un domaine qu'ils ont découvert assez tôt et dans lequel ils se sont beaucoup engagés, mais pas du tout une compétence large sur Internet. En revanche, la petite compétence qu'ils peuvent avoir, par exemple bien connaître deux ou trois youtubeurs ou bien connaître le réseau social qu'ils utilisent, et ben ça, ils peuvent nous l'apprendre. Donc, les parents qui ont des pré-ados rame, parce que c'est difficile les pré-ados, mais en même temps, ils ont une chance, ils ont un technicien familial assez spécialisé, mais quand même technicien tout de même. Et donc, du coup, faut pas hésiter à parler avec notre enfant de l'activité qu'il a privilégiée, mais pas du tout dans une optique de censure, mais dans une optique de curiosité. Et je dis aussi d'ailleurs aux enseignants qui peuvent faire la même chose avec leurs élèves, arriver en début d'année en classe en disant voilà, je suis monsieur ou madame machin, je connais bien la physique ou les mathématiques ou le français, je vais essayer de vous l'apprendre le mieux possible, mais il y a un domaine que je connais vraiment pas bien, c'est les technologies numériques. Alors des fois l'enseignant peut dire, je me pose des questions sur qu'est-ce que c'est TikTok, qu'est-ce que c'est Instagram, quelle différence, quelle ressemblance entre les deux. Donc l'enseignant peut dire, ben voilà, s'il y avait une personne ou deux parmi vous qui puissent me renseigner quand j'ai des questions, là, comme ça, je leur pose la question, ils me répondent, eh ben, ça m'aiderait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés? Il y a plein d'enfants qui lèvent le doigt, ils discutent lequel est le meilleur, ils votent entre eux. Il y a un coach numérique qui est élu par la classe et qui a pour mission d'informer l'enseignant, donc dans chaque matière, sur ce qu'il ignore du numérique. C'est la même logique, vous voyez, appliquée aux élèves que la logique appliquée à la famille. Il faut que nous soyons capables de reconnaître que dans des domaines limités, nos enfants en savent plus que nous. Et je dirais même que c'est parce qu'on reconnaît que dans certains domaines technologiques, ils en savent plus que nous, qu'on va pouvoir les rendre sensibles au fait que dans le domaine des valeurs, nous pouvons en savoir plus qu'eux. Mais on ne peut pas vouloir les convaincre des valeurs qui sont les nôtres si par ailleurs on ne leur reconnaît aucune compétence. Il faut leur reconnaître une compétence. Vous savez, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus dans une logique du donnant-donnant. Les ados, ils voient bien que les adultes n'ont rien fait pour le réchauffement climatique, donc ils sont déjà déconsidérés pour ça, hein, voilà. Donc si en plus les adultes se mettent à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est dangereux et tout, ben les ados, ils trouvent qu'ils sont pas crédibles, ils avaient qu'à s'occuper du réchauffement climatique plutôt, hein, voilà. Donc il faut accepter aujourd'hui cette logique du donnant-donnant, et encore une fois, ça concerne les parents et ça concerne aussi les enseignants. Alors après, ben il y a aussi tous les contacts que les parents peuvent avoir, les collègues de travail, les amis. Bon, souvent quand on est en soirée avec des amis, on discute des films qu'on a vus ou un petit peu de politique, des fois quand on sait qu'on est d'accord, qu'il va y avoir de clash. Mais parlons aussi des difficultés qu'on rencontre avec nos enfants, parce que finalement tous les parents rencontrent les mêmes difficultés. Et puis pourquoi ne pas créer dans les entreprises, même dans les écoles, des tableaux d'affichage sur lesquels un parent puisse écrire, je suis d'accord avec mon enfant pour lui acheter une console, mais je sais pas laquelle choisir. Est-ce qu'il y a des parents qui pourraient m'informer, voyez? Parce que si vous allez sur Internet pour savoir quelle console de jeu choisir, vous allez tomber sur un tas de sites sponsorisés. Alors que si vous discutez avec d'autres parents, ben d'abord ça va développer votre sociabilité avec eux, puis peut-être au passage ils vont vous apprendre des choses que vous attendiez pas. Puis il y a quand même aussi des parents des fois qui sont informaticiens, qui vous le savez pas, mais peut-être le parent d'un copain de votre fils ou de votre fille, ben il a des compétences informatiques que vous ignorez. Donc voilà, il faut vraiment faire appel aux contacts de proximité. Hein. Et ça, malheureusement, on en est beaucoup dissuadé par le système actuel, dans le système social, politique, économique dans lequel on est, dans lequel c'est le régime des experts. Alors, et donc, les experts, il ne faut pas oublier aussi que souvent, ben, ils sont un peu soudoyés par les GAFAM. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il faut développer, si vous voulez, une forme de curiosité collaborative, que les gens prennent beaucoup plus l'habitude de s'informer entre eux, qu'il y ait beaucoup plus de groupes de parents. Voilà, actuellement, l'école des parents et des éducateurs, par exemple, fait des groupes de parents autour des difficultés rencontrées dans l'éducation familiale, mais avec les technologies numériques. Mais il faut vraiment développer cette culture collaborative partout, parce que nous sommes dans une culture, dans une civilisation qui a pour effet d'enfermer beaucoup les gens, de replier beaucoup les gens sur eux-mêmes, et de les enfermer beaucoup dans le cercle de ceux qui sont d'accord avec eux. Et donc, poser des questions à l'extérieur de son petit cercle de gens qu'on sait d'accord avec nous, c'est rentrer dans une culture subversive par rapport à ce que les GAFAM font de nous, c'est-à-dire des consommateurs isolés.
Moi, j'aimerais savoir comment on peut identifier le trop. Quels sont les symptômes quand l'enfant passe trop de temps devant la télévision, trop de temps devant les réseaux, devant les jeux vidéo? Comment on peut identifier, ce que souvent on dit, il ne faut pas qu'il regarde trop la télé. Mais ça c'est quoi trop la télé, en fait? C'est ça la question.
Alors, vous savez, on raisonne aujourd'hui beaucoup moins en termes de temps d'écran qu'en termes d'intégration du temps d'écran dans le mode de vie général de l'enfant. Si votre enfant est un passionné de jeux vidéo, peut-être qu'il va jouer 2 heures par jour, mais s'il joue avec des copains qu'il connaît, qu'il retrouve à l'école la journée, si par ailleurs, chaque semaine, il a une activité sportive, voilà, si quand vous recevez des amis à la maison, ben il reste avec vous, voilà, il s'intéresse à la conversation, il n'y a pas de problème. Hein, ce qui est important, c'est que la sociabilité et la créativité soient préservées. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que la télévision, c'est pas le meilleur outil pour préserver la créativité, la sociabilité. Les jeux à réseau dans lesquels les joueurs sont invités à s'entraider, puis vous savez, maintenant, dans les jeux de guerre en réseau, on peut même être le médecin. Pendant très longtemps, on pouvait seulement choisir entre le tankiste et le mitrailleur et le terreur d'élite. Aujourd'hui, on peut aussi être le médecin, le soignant, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, les jeux vidéo, paradoxalement, sont le domaine qui encourage le mieux la sociabilité de l'enfant. Alors, compte tenu du fait qu'il est très difficile que cette sociabilité soit alimentée souvent par des activités en présence physique. Parce que pour que la sociabilité soit alimentée en présence physique, il faut que les enfants aient des espaces dans lesquels se rencontrer. Or, les sociologues de la ville, comme Valérie Gobi, ont bien montré que les espaces dans lesquels les jeunes peuvent se rencontrer, dans les villes, se sont réduits comme peau de chagrin. Pendant longtemps, il y avait encore quelques terrains vagues. Bon, maintenant, ils sont bien clôturés pour éviter les accidents. Avant, l'État s'en préoccupait pas, il ne s'en préoccupait pas. Et puis, il y a eu les supermarchés. Maintenant, ils sont quadrillés par des vigiles qui empêchent tous les rassemblements d'ados. Et puis, il y a le béton partout, quand même, qui fait que il y a quelques petits jardins en général pour les mères de famille qui votent et pour les personnes âgées qui votent, mais il n'y a rien pour les ados qui ne votent pas. Et donc du coup, Valérie Gobi a bien montré que si les ados se rencontrent moins en présentiel, c'est pas parce qu'ils sont plus sur les écrans, c'est exactement le contraire. Ils sont beaucoup plus sur les écrans parce qu'ils ont beaucoup moins d'espace physique dans lequel se rencontrer. Donc il faut comprendre que cette sociabilité que les jeunes développent sur les réseaux, ou dans les jeux vidéo en réseau, c'est pas une manière de fuir la proximité physique. C'est une manière de rester avec leurs potes quand ils peuvent pas les retrouver. Vous savez, chaque fois qu'il y a des terrains de sport qui sont ouverts le week-end, des cours de récréation, des gymnases dans certaines écoles, ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais quand il y en a, en tout cas, ben les jeunes y vont. Ils vont pas toute la journée, évidemment, mais ils y vont. Ils sont contents de se retrouver. Vous savez, après le confinement, il y a des enseignants qui ont dit, mais ils sont restés tellement de temps dans leur coin, comment ils vont faire pour se retrouver? Dès que les portes de l'école se sont ouvertes, ils sont rués dans la cour en hurlant et ils se sont mis à jouer ensemble. C'est les jeunes sont beaucoup plus moteurs que nous. Ils ont beaucoup plus besoin de cette proximité avec leurs potes. On dit, certains chercheurs américains d'ailleurs disent que les ados sont pas du tout accros à leur portable. Ils sont accros à leurs potes. Et quand ils n'ont pas d'autre moyen d'être en contact avec leurs potes que le portable, mais ils sont sur leur portable. Voilà. Donc, comment définir le trop de télé, comment définir le trop d'écran en général? Même par le fait que l'enfant a des problèmes de sociabilité. Que quand un copain vient, qu'il refuse par exemple qu'on organise un anniversaire avec ses copains, ou qu'il refuse de répondre à une invitation d'anniversaire de ses copains en disant « mais je préfère rester devant mon ordinateur », ça c'est très inquiétant. Mais tant qu'un enfant a cette curiosité relationnelle du contact de proximité, et puis tant qu'il a aussi une activité de création, et ça, un certain nombre d'ados ont des activités de création, mais les parents ne le savent pas forcément. C'est en parlant avec leur enfant qu'ils le découvrent. Donc si vous avez cette curiosité sociale, cette appétence sociale, et puis éventuellement cette fibre créatrice qui s'y ajoute, vraiment, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ça oblige à bien comprendre la différence entre la passion et la dépendance. Hein. Les gens qui sont passionnés d'une chose, ils peuvent y passer beaucoup de temps. Les passionnés de vieilles voitures, ou les passionnés de timbres, ou les passionnés de géologie, ils passent beaucoup de temps sur leurs petites boîtes ou sur leurs albums, mais c'est une activité, ça a toujours permis aussi une socialisation à ceux qui en avaient envie, d'échanger des timbres, de regarder les catalogues, de s'informer auprès des experts, etc. Donc, il faut bien distinguer le trop d'écran, le temps d'écran excessif par passion et le temps d'écran excessif par désocialisation. Et encore une fois, si un enfant est beaucoup sur les écrans avec des activités de création, des activités sociales, il faut éventuellement essayer de l'intéresser à autre chose, voilà. Mais en même temps, faut pas vouloir lui enlever quelque chose qui est pour lui un support de socialisation, à défaut d'en trouver un autre, parce qu'encore une fois, les espaces de rencontre physique sont très limités.
Bienvenue sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Le Zoom Info.
Bonjour. Bonjour.
C'est une visite que Diane, maman d'un petit Mathéo âgé d'un mois, attendait en cette fin de matinée. Celle d'Olympe, maman, contact et bénévole pour l'association Super Maman.
L'association Super Maman France est une association qui a été créée en France en 2020. C'est un concept à la base suisse. Et le principe de cette association, c'est de bichonner des jeunes mamans post-accouchement en leur apportant des repas à domicile et en partageant avec elles un moment convivial entre les mamans cadeaux, donc les femmes qui apportent des repas et la maman à bichonner à la maison.
C'est la troisième fois depuis son retour à la maison que Diane reçoit la visite d'une maman cadeau.
Et j'ai trouvé ça assez chouette, le principe de déjà partager un moment en face-to-face avec une personne et l'aspect repas qui est hyper réconfortant aussi.
Un moment réconfortant avec un repas, mais surtout d'échanges pour donner des conseils à de nouvelles mamans un petit peu perdues parfois dans leur nouveau rôle.
J'ai trouvé ça hyper précieux de pouvoir avoir un peu un échange là-dessus, notamment mon premier bichonnage, on a vécu un peu le même type d'accouchement, donc elle m'a beaucoup partagé ce qu'elle a vécu elle et ça m'a rassurée aussi par rapport à ce que je vais vivre, connaître plus tard. Donc c'était un moment un peu initiatique, la maternité et d'être entourée de femmes, nouvelles mamans, ça permet de naviguer dans ces nouveautés avec un peu plus de sérénité.
Olympe le constate, ces moments de bichonnage ont une influence sur la période de postpartum des jeunes mamans.
Au fil des semaines, on oublie un peu la maman. Les femmes à qui je rends visite me disent je me sens seule. Mon quotidien est rythmé par la vie de mon bébé et c'est vrai que j'ai peu d'échanges extérieurs avec des femmes. C'est un petit moment de joie que de savoir qu'il y a une personne personne qui viendra nous rendre visite à domicile pour parler peut-être autre chose que juste cet enfant en fait qui vient de naître.
En tout cas, si l'aventure vous tente, rendez-vous sur le site supermamanfrance.fr.
La nuit sur 8FM, on passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
8FM, Zoom Info.
La Cité du Vin a retrouvé son rythme de croisière. 415 300 visiteurs ont passé ses portes en 2024. C'est 4% de plus que les prévisions. Comment expliquer ça? Eh bien, Solène Jaboulet, directrice marketing et communication de la Cité du Vin, nous donne quelques éléments de réponse.
Il faut avouer que là, on a eu un mois de mai qui a été exceptionnel avec des ponts très très longs. Puis un mois de septembre particulièrement pluvieux qui nous sert, nous, parce que quand on a beaucoup d'étrangers qui sont sur Bordeaux en cette fin de saison, septembre et octobre, et qu'il n'y a pas un temps très beau, ils viennent en masse à la Cité du Vin.
180 nationalités sont venues visiter la Cité du Vin avec en tête les Espagnols. Les Bordelais représentent 10% de la fréquentation, plus concentrés sur les ateliers de dégustation ou encore les rendez-vous culturels. Au-delà des chiffres, la Cité du Vin se concentre aussi beaucoup sur l'indice de satisfaction.
On est près d'une note de 9 sur 10 de satisfaction, d'un net promoter score de 68. Et donc c'est vraiment très important pour nous d'avoir une expérience très enrichissante quand on visite la Cité du Vin.
Et les visiteurs peuvent régulièrement faire remonter leurs observations. Observations prises en compte par la Cité du Vin pour améliorer les différentes visites et expériences. Par exemple, la zone d'accueil de l'expo permanente subira fin janvier quelques travaux pour une meilleure circulation des visiteurs à partir de début février. Et la Cité du Vin s'est aussi inscrite dans la transition écologique avec pour but de sensibiliser au changement climatique.
Et ce qui est encore plus important pour nous, c'est le fait de sensibiliser nos visiteurs non seulement à la culture du vin, mais aussi aux impacts que peut avoir le changement climatique sur la culture du vin. Et on voit ce chiffre de 78% de visiteurs de l'exposition permanente qui déclarent que, à l'issue de leur visite, ils ont vraiment été sensibilisés à l'importance de la préservation de l'environnement.
Et ça se ressent sur la programmation culturelle. De nombreux ateliers auront pour thème l'environnement. La solidarité est aussi au rendez-vous puisque la Cité du Vin ouvrira ses portes pour la première fois à l'établissement français du sang le mercredi 22 janvier pour une collecte du don du sang de 10h à 19h.
C'est bientôt la fin de la nuit sur 8FM. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.
You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be?
FM. Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Je porte mon corps de femme, quoi qu'il pèse, le ventre lourd pour des certes d'amour. Je porte 100 000 drapeaux, mes idéaux et mes foutaises. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop.
Show me how to move like the water. In between the dance and light.
8FM. 8FM.